Depuis septembre, on étudie l'évangile de Marc. Et on avait remarqué ensemble que cet évangile a une question centrale. Cette question étant, mais qui est Jésus? Qui est Jésus? Et on est porté par cette question à chaque fois. Qui est Jésus? Voilà la question fondamentale de l'évangile de Marc. Il se trouve que dès son introduction à son évangile, Marc il nous donne déjà la réponse à sa question. Il nous explique déjà qui est Jésus et il donne trois témoignages. Il y a le témoignage de Marc lui-même, le témoignage de Jean-Baptiste et le témoignage de Dieu lors du baptême de Jésus. Et on apprend par ces trois témoignages que Jésus est Dieu fait homme, qu'il est le Christ, celui qui est envoyé par Dieu pour libérer son peuple. Dieu venu lui-même en chair, dans la chair humaine, pour libérer son peuple. Ça, c'est ce qu'on apprenait donc dès le début de l'évangile de Marc. Mais question restée en suspens, venu libérer de quoi? Ça, c'est la suite du récit qu'il dit. Jésus prend la parole, verset 15, et il dit « Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous. Autrement dit, eh bien, la libération qu'il est venu apporter, Jésus, c'est celle du mal qu'il y a au fond de notre propre cœur. Voilà pourquoi il nous demande de nous repentir de nos fautes. C'est bien le mal qui règne dans nos cœurs qui est un problème et qui nous sépare de Dieu. Et c'est de ça que Jésus est venu libérer. Et pour montrer la capacité qu'il a à vaincre le mal, Jésus fait des miracles. Il libère des hommes et des femmes de l'emprise des démons et il guérit. C'est cela dont nous nous rendons compte dans les chapitres 1 à 3. Guérison et exorcisme pour montrer qu'il est bien légitime à libérer le mal, qu'il a toute la puissance nécessaire à libérer le mal. Donc on assiste à la puissance de Jésus et on assiste à un étonnement. Tout le monde est très étonné en voyant les miracles de Jésus. Tout le monde est ébahi même, mais il y a une opposition qui naît. Une opposition qui naît contre lui. Et cette opposition, on avait remarqué qu'elle était même parmi les gens qui étaient les plus proches de Jésus, sa propre famille. Et les religieux juifs qui attendaient la venue du Messie. Et ce sont eux qui sont les plus opposés à Jésus. C'est vraiment bizarre. Et pourquoi? Pourquoi cette opposition? Eh bien, on en a la réponse au chapitre 4. On avait lu un ensemble de paraboles, des petites histoires agricoles. Et on avait compris à travers ces paraboles qu'il y avait plusieurs types de cœurs humains. Il y avait le cœur dur, le cœur superficiel ou le cœur trop plein. Et il y avait aussi le cœur ouvert. Et donc, en voyant qu'il y avait plusieurs cœurs humains, on s'était rendu compte que c'était normal de constater qu'il y avait des gens qui rejetaient Jésus. Tout le monde ne le reçoit pas avec joie. Tous les cœurs ne le reçoivent pas avec joie. Et ces petites paraboles, on avait aussi constaté qu'elles n'étaient pas que de simples petites histoires agricoles. En fait, c'était des histoires qui nous engageaient à faire un pas de plus avec Jésus et à lui demander de l'aide. On peut se tourner vers Jésus en lui demandant de l'aide. Et c'est justement ce que nous allons voir dans le récit d'aujourd'hui. On va voir des hommes et des femmes qui se tournent vers Jésus et qui lui demandent de l'aide. Et on va voir que Jésus, il prend ça très à cœur. Il va les libérer, il va les aider, il va faire des miracles pour eux. Et donc c'est Simone qui va lire pour nous. C'est un texte, c'est un récit qui est long, mais vous allez voir la cohérence qu'il y a dans tous ces petits épisodes qu'on va lire. On va essayer de voir ensemble cette cohérence-là tout à l'heure. Et je vais prier avant que Simone ne lise. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci pour sa richesse. Merci parce qu'elle est la vérité. Notre prière, c'est que tu nous transformes à l'écoute de ta parole. Transforme-nous par ta vérité. Et nous te prions que tu nous donnes de la concentration ce matin alors que nous allons entendre ce long récit. Et donne-nous aussi de la joie à découvrir ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Amen.
Voilà donc ce long récit, nous le commençons dans le chapitre 4 de l'évangile de Marc, au verset 35. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et amenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas !» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur ? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme pour qui même le vent et le lac lui obéissent ?» Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Car on l'avait souvent enchaîné, et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas !» Car Jésus lui disait « Esprit mauvais, sors de cet homme !» Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où ils se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors, la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au porc. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit « Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement, en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit : « Pourquoi ce tumulte ? Pourquoi ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et leur dit de donner à manger à la jeune fille. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ? Disait-il. Qui lui a donné cette sagesse ? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ? » Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit : « C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. » Il fut très étonné de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement.
Merci beaucoup, Simone. Je voudrais vous parler de mon grand-père. C'était un homme du siècle passé. Il était né en 1914 et il avait vécu une vie très dure. Alors, il était plutôt avare en compliments, mon grand-père. Il ne parlait pas beaucoup, il avait l'air toujours grincheux, et il était rare qu'une phrase ne contienne pas un « mille adieux », c'est-à-dire « mille dieux » en occitan, une sorte de juron pour exprimer son énervement constant. Ça, c'était mon grand-père. Et puis, avec mon cousin, à cause de tout ça, eh ben, je vous avoue qu'on le craignait un peu, mon grand-père. C'est que mon grand-père, il était aussi spécialiste du regard qui tue. Quand il te regardait, tu sais, pendant le repas, tu savais que tu avais fait quelque chose qui ne lui avait pas plu. Il te fusillait rien que du regard. Alors, je ne vous raconte pas les bonnes ambiances en repas de famille. Au mariage de ma cousine. Au mariage de ma cousine, je m'en souviens comme si c'était hier, mon grand-père se lève de table. Il se dirige vers ma tante, donc sa fille. Et là, mon cousin, il me donne un coup de coude. Il me dit, il y a quelque chose, ça va barder, là, attention. Et puis, en fait, donc, il s'approche de sa fille, de ma tante. Et puis, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Ma tante se lève. Et ils vont, tous les deux, sur la piste de danse. Et là, je vous avoue qu'avec mon cousin, on regardait la scène, la mâchoire décollée. Et on ne comprenait pas très bien ce qui allait se passer. Et en fait, mon grand-père a commencé à danser avec ma tante. Et on a découvert, mon cousin et moi, que mon grand-père était un incroyable danseur, qu'il était super doué. Et après cet épisode, on n'a plus jamais regardé mon grand-père de la même façon. Alors si je vous raconte cet épisode familial, c'est que le récit que nous venons de lire me fait un peu penser à cela. Jésus fait des miracles. Et ça, c'est pas nouveau dans l'évangile de Marc. Il guérit des malades, il chasse des démons, mais il l'a déjà fait avant. On en a déjà parlé. Rien de nouveau sous le soleil. Et pourtant, il me semble qu'ici, on a une progression encore dans les miracles. Progression par rapport aux miracles précédents. Si bien que les disciples, on pensait que les disciples connaissaient Jésus. Et imaginez, les disciples qui pensaient connaître Jésus vont être obligés de dire « Mais qui est donc cet homme ? Qui est donc cet homme ? Qui est Jésus ? Question fondamentale que nous pose Marc et à laquelle on est renvoyé encore et encore aujourd'hui. Et ma prière pour ce matin, c'est que, eh bien, pareil que pour mon grand-père, on ne regarde plus jamais Jésus de la même façon après cet épisode, après ces épisodes que nous allons décrypter ensemble. La première chose que fait Jésus dans le premier épisode d'aujourd'hui, c'est il calme la tempête. Jésus a autorité sur la nature. Je vous relis le verset 39. « Il parla sévèrement au vent et il ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Silence, tais-toi, c'est un peu le genre de truc qu'on dit à un petit chien qui nous énerve ou parfois, malheureusement, à nos enfants quand on n'arrive pas à les calmer. Et Jésus, il suffit qu'il dise ça au vent et au lac et ça se calme. Contrôler les éléments de la nature. Ça, c'est encore plus extraordinaire et plus inexplicable que guérir un malade, par exemple. Parce que guérir un malade, il faut bien reconnaître que les médecins, moyennant quelques médicaments, ils y arrivent, avec des limites, mais ils y arrivent. Un peu. Mais là, on passe à quelque chose de supérieur. Prérogative divine. Contrôler les éléments de la nature. Qui d'autre que Dieu peut faire lever une tempête? Qui d'autre que Dieu peut apaiser une tempête? On atteint donc, me semble-t-il, un nouveau sommet dans l'évangile de Marc, ici. Et dans le bateau, ils ne s'y trompent pas, les disciples. Ils ont bien compris, ils sont complètement bluffés par ce qu'il vient de leur arriver. Et ils se rendent compte que peut-être ils avaient peut-être un peu sous-estimé Jésus. Jésus, pourtant, qu'ils commencent à connaître. Et donc, verset 41, chapitre 4. « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Deuxième épisode. La guérison de l'homme qui est possédé par une légion entière de démons. Là aussi, ça dépasse les miracles précédents, parce que Jésus a déjà prouvé qu'il était capable de rendre toute sa tête à un homme. Mais là, ce n'est pas juste un seul démon, c'est une légion entière, des centaines de démons dans la personne, une armée de démons. Jésus a autorité sur le mal. On a dans cet épisode l'exorcisme le plus spectaculaire de tout l'évangile. Et c'est vrai que rien que la description de cet homme, elle est assez saisissante. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est à faire pâlir tous nos films d'horreur, quoi. Un gars qui se balade dans les tombeaux et qui fait flipper tout le monde. Qui court partout, qui se cogne, qui tombe, qui se blesse, qui hurle sans arrêt. Et que même les gens de son village ont essayé de l'attraper, ils lui ont mis des fers, ça n'a même pas marché. Il a tout cassé. Et là, soudainement, il y a Jésus qui arrive. Jésus arrive et qu'est-ce qui se passe? Le démoniaque, il file se présenter à Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle. Il lui parle, les démons commencent à négocier. Et ce qu'ils négocient, ce n'est pas le fait de ne pas être expulsés, parce que les démons ont très bien compris qu'ils allaient être expulsés. Et donc, ce qu'ils négocient, c'est le lieu où ils vont pouvoir être expulsés. Un troupeau de 2000 porcs, nous est-il raconté. Là aussi, on peut être troublé par l'ampleur de la puissance de Jésus. 2000 porcs qui vont se jeter et se noyer dans le lac ensuite. Troisième épisode d'aujourd'hui. Épisode aussi qui est assez dérangeant et inhabituel. C'est une femme qui s'approche de Jésus par derrière, qui touche son manteau et elle est guérie instantanément. Jésus, elle n'a rien demandé à Jésus, elle a fait ça par elle-même, juste touché, comme si la puissance, la guérison de Jésus irradiait de son propre corps, de ses propres vêtements. Là aussi, on atteint un niveau inégalé de capacité à vaincre la maladie. Pas besoin de parole, pas besoin d'imposition des mains. Et un nouveau sommet, eh bien, on en a un, bien évidemment, avec la résurrection d'une jeune fille qui était morte. La fille de Jaïrus, le responsable de la synagogue du coin. On atteint un nouveau sommet avec la guérison de sa fille. Jésus a toute autorité sur la mort. La mort est vaincue. Là, il faut qu'on s'arrête un peu et qu'on compare par rapport au reste des personnes, qu'on compare par rapport au reste de l'humanité. Et c'est vrai que si Jésus est puissant, les autres, au contraire, ils ne cessent d'expérimenter leurs limites et leur impuissance. Regardez un peu. Premier épisode, les disciples, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la tempête ? Ben rien. Ils sentent leur mort approcher, au point qu'ils vont réveiller Jésus au fond du bateau, qui disent « Mais maître, on va mourir, on est en train de mourir. » Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il dort paisiblement, la tête sur un coussin, au fond du bateau. Deuxième épisode, les habitants de la région de Gérasa. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre la légion de démons qui s'est emparée de cet homme ? Ben, ils ne peuvent rien faire non plus. On l'a dit tout à l'heure, ils se sont emparés de l'homme, ils lui ont mis des chaînes aux pieds et des fers. Ça n'a pas suffi. Ça n'a rien fait. Sans succès. Troisième épisode, il nous est dit que la femme qui souffre d'hémorragie depuis des années, elle a tout essayé auprès des médecins. Elle s'est même ruinée auprès des médecins. Et pourquoi ? Pour un semblant d'amélioration ? Non. Il nous a dit que sa situation était même pire qu'avant. Vous voyez à quel point les hommes sont limités à côté de Jésus. Et alors, ne parlons même pas du dernier épisode avec la fille de Jaïrus. Quand elle décède, ils vont auprès de leur maître et ils leur disent « Ta fille est morte, ça ne sert plus à rien de faire venir le maître. Renvoie-le, ça ne sert plus à rien. » Et pour nous, c'est pareil. On est confronté sans cesse dans notre vie à nos limites. On est confronté à notre incapacité à gérer nos maladies, le mal, la mort, la nature. Et qu'est-ce qui nous enseigne ces passages ? Eh bien, il nous enseigne que si nous, on est limité dans notre capacité par rapport à tout ça, eh bien, Jésus, lui, n'a aucune limite. Il est le Seigneur de l'univers et rien ne lui résiste. Et c'est une invitation, pour le coup, c'est une invitation qui nous est adressée à nous tourner vers lui. Jésus, il nous invite à lui apporter tous nos problèmes, à lui confier tous nos soucis. Je ne sais pas vous, mais moi, parfois, je baisse les bras dans certains domaines de ma vie. Je baisse les bras. Je baisse les bras parce que, malgré mes efforts, je ne vois pas de changement en moi. Je ne sais pas si vous vivez ce genre de choses. Le fait d'essayer, parfois, de faire du mieux que vous pouvez, et puis de ne pas vivre que des réussites, de vivre des échecs aussi. Et là, ce passage, moi, il m'encourage. Il m'encourage à ne pas baisser les bras. Il m'encourage à me tourner vers la seule solution. Se tourner vers Jésus et lui demander de l'aide. Là, on a une solution. Et ça, les horticulteurs, ils le savent bien. Il y a une petite histoire qui est connue par les horticulteurs, peut-être que vous l'avez entendue. Cette histoire, c'est qu'on ne fait pas pousser une plante en tirant sur ses feuilles. On le sait tous, comment on fait pour faire pousser une plante. Eh bien, on prend soin d'elle, on la met de temps en temps au soleil, et puis on l'arrose, et on fait en sorte que dans la terre, il y ait des oligo-éléments pour qu'elle puisse croître. C'est comme ça qu'on fait croître une plante, mettant un peu d'engrais. Eh bien, l'image est la même ici, c'est que ce n'est pas en comptant sur nos propres forces que nous lutterons efficacement contre les tentations et contre le mal qui est en nous. C'est en faisant appel à Jésus, de différentes façons, en faisant appel à lui dans la prière, en lisant sa parole qui nous nourrit et qui nous transforme de l'intérieur, en adorant Jésus, comme on l'a vu la semaine dernière, lorsque l'on adore Jésus, nos idoles régressent. Lorsqu'on trouve tout notre plaisir en Dieu, l'attrait de nos idoles diminue. Et bien sûr, c'est aussi en étant encouragé et en étant repris par nos frères et sœurs dans l'Église également, que l'on progresse, que l'on peut lutter efficacement contre le mal qui est en nous. La prière, la Bible, la louange, les frères et sœurs. Et dans tout ça, c'est Dieu qui agit en nous, par son esprit. Qui est donc cet homme ? Jésus. Et là, c'est un peu triste parce que les premiers à avoir réellement compris qui est Jésus, ce sont les démons, dans l'évangile de Marc. Les démons, ils ne doutent pas un seul instant de la puissance devant laquelle ils sont. Et ce sont eux qui l'expriment le plus clairement. La légion de démons, quand elle est face à Jésus, qu'est-ce qu'elle dit ? Que me veux-tu, Jésus ? Fils du Dieu Très-Haut. Les démons, la légion de démons sait qu'elle a affaire au Fils du Dieu Très-Haut. Et ça, c'est le titre le plus précis qui nous présente Jésus, c'est le titre le plus précis qu'on ait pour le moment dans l'évangile de Marc. Dans la bouche de qui ? D'un démon. Et un peu plus loin, versets 19 et 20, ils sont aussi révélateurs de qui est Jésus, l'ancien démoniaque qui a retrouvé toute sa raison. Jésus lui dit « Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. » Et le récit conclut, vous pourrez regarder ça vous-même, le récit conclut « L'homme s'en alla et se mit à proclamer ce que Jésus a fait. » Donc, va et proclame ce que le Seigneur a fait pour toi, et lui, il proclame ce que Jésus. Vous voyez comment l'identité entre Jésus et le Seigneur est faite ? On lui demande de dire ce que le Seigneur a fait, il dit ce que Jésus a fait. Jésus est bien le Seigneur de l'univers, ce roi dont Daniel parlait tout à l'heure, ce roi différent et qui gouverne différemment. Alors la question qui va nous intéresser maintenant, qu'on a constaté qui est Jésus, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire ? Quelles sont les réactions ? Quelle est l'attitude adéquate devant Jésus ? Si on comparait la terre avec un château fort, Jésus, il serait le seigneur de ce château fort. Il serait le roi. Tout le monde lui rendrait des comptes. Tout le monde serait jugé par lui. Tout le monde respecterait ses décisions et tout le monde lui devrait obéissance. C'est ça que ça veut dire, hein, seigneur, le roi. Le problème, bien évidemment, c'est que malheureusement, ce n'est pas ce qu'on observe aujourd'hui sur Terre. Tout le monde ne considère pas Jésus comme son roi, comme son seigneur. Et même nous, chrétiens, nous ratons de considérer Jésus comme notre roi de bien des manières, et bien souvent. Alors, je vous invite à regarder avec moi les différentes réactions qu'on a face à Jésus dans ce passage. Et c'est là que vous allez voir aussi à quel point ces passages vont ensemble, car le portrait qui nous est brossé est le même. Quand Jésus calme la tempête, qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, les disciples sont saisis d'une grande peur, nous est-il dit. On pourrait même se demander si les disciples n'ont pas plus peur de Jésus qu'ils n'ont eu peur de la tempête avant. Dans l'épisode d'après, quand Jésus guérit le démoniaque et qu'il envoie tous les démons dans les porcs, je vais vous lire la suite. Les gardiens du troupeau de porcs s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent voir ce qui s'était réellement passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de Légion, assis là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Quand la femme est guérie de sa perte de sang, que lui arrive-t-il ? Elle est saisie de crainte quand Jésus comprend que c'est elle. Saisie de crainte et de tremblement. Et enfin, quand Jésus ressuscite la fille de Jaïrus, ceux qui sont présents sont frappés de stupeur. Vous voyez qu'il y a un cocktail qui est étonnamment concret de crainte quand Jésus accomplit ce type de miracle. Crainte et étonnement sont au menu de toutes les réactions. Et là, je voudrais vous parler à notre côté blasé un peu, parce que nous qui avons lu les évangiles, peut-être que certains d'entre nous ne les ont pas lus, mais en tout cas, ceux qui sont familiers des évangiles, des miracles de Jésus, il en fait tellement qu'on finit par « ça ne nous fait plus rien ». Et on peut être blasé. On peut être blasé. Et il nous faut relire tous ces passages avec un nouveau regard, à chaque fois. Avec un regard d'enfant, parce que, en fait, c'est pas banal. Ça peut pas être banal, ce qui se passe. Ce ne sont pas des histoires banales qui nous sont racontées. Un homme qui maîtrise la nature. Un homme qui maîtrise le mal, les démons dans une personne. Un homme qui maîtrise la maladie et même la mort. Comment pouvons-nous être blasés par un tel homme ? On devrait le craindre. On devrait le craindre au minimum parce que nous sommes pécheurs. Et que nous commettons du mal bien souvent. Comment nous approcher de Dieu ? Comment nous approcher de Jésus alors que nous sommes pécheurs ? Au temps de l'Ancien Testament, il fallait être dans un état de pureté, il fallait être pur pour pouvoir aller au temple et rendre un culte à Dieu, lui offrir des sacrifices. Dans le livre du Lévitique, il y a toute une liste de choses qui rendent les hommes et les femmes impurs. Et notamment, eh bien, cette histoire d'hémorragie. La femme qui souffrait d'hémorragie, d'après le livre du Lévitique, cette femme, elle était dans un état impur. qui ne pouvait pas lui permettre de se rendre au temple pour honorer Dieu, pour s'approcher de lui. Par la même occasion, elle était aussi socialement exclue, cette femme, parce que quiconque aurait fait quelque chose avec elle, ou se serait approché d'elle, ou l'aurait touchée, quiconque l'aurait touchée, se mettrait dans une même position d'impureté par rapport à Dieu. Donc cette pauvre femme qui avait une hémorragie constante, elle ne pouvait pas s'approcher de Dieu, et les autres ne s'approchaient même pas d'elle non plus. Elle était complètement exclue, en marge de la société. Alors ces exigences de pureté, elles nous paraissent dures, elles nous paraissent même arbitraires. Pourquoi une femme qui saignerait ne pourrait-elle pas s'approcher de Dieu ? Alors ces exigences, en fait, elles étaient pédagogiques. L'impureté, c'était en fait une image du péché, une image du mal, une image du mal comme la souillure qu'il y a au fond de notre cœur. Ces exigences de pureté, elles devaient faire ressentir aux hommes et aux femmes la distance, tout le fossé qu'il y a entre Dieu et les hommes. Cela devait permettre de faire ressentir la sainteté de Dieu et l'état de pécheur de l'homme. On ne peut pas s'approcher de Dieu parce qu'on mérite sa colère. Heureusement, bien évidemment, ces temps anciens sont révolus grâce à Jésus. En mourant à notre place sur la croix, Jésus, il a apaisé la colère de Dieu à notre égard. Il a payé pour toutes nos fautes. Et si l'on croit en Jésus, eh bien Dieu ne voit plus nos fautes, Dieu ne voit plus cette souillure qu'il y a en nous, mais il voit au contraire la pureté de Jésus quand il nous regarde. Et comme Jésus a payé pour nous de façon définitive, il n'y a plus de règles de pureté rituelle à respecter aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on peut s'approcher de Dieu n'importe comment. On ne peut pas s'approcher de Dieu, par exemple, comme s'il était notre meilleur pote. Trop souvent, peut-être qu'on l'aborde comme ça. On l'aborde avec une liste de courses, comme s'il était un distributeur automatique de bénédictions. Dieu n'est pas notre meilleur pote. Il reste Dieu. Et cette crainte qui s'emparait des gens en contact de Jésus, elle était très légitime. Comme nous le rappelle le livre des Proverbes, la crainte de Dieu, eh bien, c'est le début de la sagesse. Mais c'est que le début. Ensuite, cette crainte, il faut la mettre en action. Cette crainte, c'est plutôt du respect, de l'obéissance pour les commandements de Dieu. À cet égard, on a justement le témoignage, je dirais le contre-exemple des gardiens de port. Ces villageois-là qui craignent Jésus, mais qui vont pourtant l'inviter à partir, à s'en aller. Ils craignent Jésus quand ils voient le démoniaque Saint-Esprit. Ils craignent Jésus quand ils voient tout leur troupeau de porcs, 2000 porcs, qui se sont noyés suite à l'intervention de Jésus. Ils craignent véritablement Jésus, ils ont peur de lui. Mais en fait, la logique commerciale, elle reprend le dessus. Ils demandent à Jésus de partir. Ils n'ont rien à redire quant à la guérison de cet homme, mais ils ne sont pas prêts à renoncer à leur vie, à leur propre vie, pour suivre Jésus. Ils ne sont pas prêts à lui obéir. Je dirais qu'on est un peu comme eux. On craint Dieu. On craint Dieu parce qu'on sait tout ce qu'il est capable de faire. On sait qu'on va rendre des comptes au jour du jugement. Mais parfois, le jour du jugement nous semble tellement loin, tellement abstrait. Et puis, il y a donc ces domaines de notre vie où nous avons du mal à lâcher prise et à reconnaître l'autorité de Dieu. Comme les villageois, eh bien parfois, on préfère garder la jouissance de notre troupeau de porcs plutôt que de suivre Jésus et de lui obéir. Alors, je voudrais poser cette simple question. Quel est ce troupeau de porcs que tu préfères garder plutôt que de le laisser et de suivre pleinement Jésus? Alors, j'aimerais vous proposer une petite devise pour 2019. Je ne sais pas si c'est une habitude ou pas dans cette église, mais j'aimerais vous proposer une devise pour 2019. Une devise qui reprend un peu ce qui nous arrive à tous quand on est face à un écran d'ordinateur et que ça n'avance pas. un sablier, vous savez. Alors, ça ne se fait plus maintenant, mais avant, quand on cliquait sur un truc et que l'ordinateur moulinait, il y avait un petit sablier qui disait, mais attendez, il y a un truc en train de charger. Ça, patientez, ça va bientôt arriver. J'aimerais vous proposer ce petit sablier avec ce petit texte. 100% cohérence, chargement en cours. Parce qu'une fois qu'on a identifié ce troupeau de porcs qu'on a du mal à laisser à Dieu, eh bien, on est appelé à progresser dans notre vie. Le Seigneur nous appelle à progresser. Il nous appelle à lui obéir toujours plus, pas pour gagner notre place auprès de lui. Notre place auprès de lui, elle est déjà assurée. C'est un cadeau, c'est gratuit. Mais, eh bien, quand on sait que Jésus nous a aimés au point de donner sa vie pour nous, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, on a envie de le servir. On a envie de l'aimer en retour, Jésus. Il nous a rachetés à grand prix et notre vie lui appartient. Et donc, eh bien, il nous invite à lutter contre notre péché et à ne plus l'attrister. Et ce qu'il y a de bien avec ce petit sablier, c'est qu'il peut agir dans les deux sens. On peut le retourner, le sablier. Si tu désespères de toi-même à cause de tes fautes, ça m'arrive, moi, de désespérer de moi-même. Et si c'est le cas pour toi aussi, si tu désespères de toi-même à cause de tes fautes, eh bien, j'espère que cette devise te réconfortera. Elle te rappellera que tu es en marche sans faire de politique. Elle te rappellera que tu es en marche vers la sainteté et que tu n'as pas encore atteint le but. Cette devise, elle t'encouragera à ne pas baisser les bras. Quand décideras-tu enfin de vivre pour lui ? Dieu t'aime malgré tes fautes. Il veut donner un sens à ta vie. Il est même le seul à pouvoir donner un sens véritable à ta vie. Tout le reste ne nous rend pas heureux. Alors reviens à lui et avance, avance. Et si au contraire, tu es dans une phase de progression avec Dieu, si c'est cool, eh bien peut-être que cette devise gardera ton cœur humble et à l'écoute de Dieu. Parce que, on le sait tous, on a vite fait de chuter. Cette devise, elle te rappellera que, eh bien toi non plus, tu n'as pas encore atteint ton but. Chargement en cours. Mener une vie qui plaît à Dieu, c'est la marche de la vie entière. Alors j'espère que cette devise, dans ce cas-là, elle t'encouragera aussi à persévérer. En tout cas, ne soyons pas comme ces villageois qui craignaient Jésus, mais qui préféraient finalement leur troupeau de porcs à Jésus et qui lui ont demandé de partir. Alors ces récits, il n'y a pas que la crainte dont ils parlent. Il y a aussi la foi et la reconnaissance. La foi d'abord. Quand on est venu annoncer à Jaïrus que sa fille était morte, il lui a dit ça, « Ne crains pas, crois seulement. » Vous voyez, ne crains pas, alors que tout le monde craint. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Nous n'avons plus à craindre, nous pouvons nous approcher de Dieu et croire. Jésus est tout puissant et il peut transformer nos vies. Il peut répondre à nos prières. Il peut renouveler notre intelligence. Alors, est-ce qu'on croit cela ? Très certainement que si on n'en est pas convaincu, on ne verra pas grand-chose dans notre vie. Exactement comme quand Jésus est revenu dans son village natal de Nazareth, les gens le connaissaient comme le charpentier du coin et ils ne croyaient pas que Jésus était capable de chambouler leur vie. Jésus n'a pas chamboulé leur vie. Et dernier constat, l'attitude, quelle est l'attitude adéquate devant Jésus ? Eh bien la reconnaissance, la joie. C'est ici la reconnaissance et l'enthousiasme de l'ancien démoniaque qui est un exemple pour nous. Quand quelque chose nous plaît, quand un artisan a bien travaillé chez nous, en général, on n'hésite pas à faire de la publicité pour cet artisan. Eh bien, c'est exactement ce que fait le démoniaque ici, lui qui a été guéri par Jésus. Il veut accompagner Jésus. Et Jésus lui dit « Non, tu ne vas pas m'accompagner, tu vas rester là et tu vas aller dire tout ce que le Seigneur a fait pour toi. » Et il y va avec joie, avec enthousiasme, ce démoniaque. Alors nous aussi, n'hésitons pas à faire de la pub pour Jésus. Il est le seul à pouvoir guérir, il est le seul à pouvoir sauver. Il est le seul à pouvoir changer notre cœur. Et c'est cet enthousiasme qui nous pousse à annoncer partout autour de nous cette bonne nouvelle de Jésus. Mort, pour nos péchés, mort pour nous pardonner. Quelques mots de conclusion. On a vu aujourd'hui vraiment Jésus dans l'étendue de sa toute-puissance. Il a autorité sur la nature, il a autorité sur le mal, la maladie et la mort. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Jésus est le Seigneur de l'univers. Et en conséquence, eh bien, on devrait expérimenter de la crainte face à Jésus, crainte dans le sens de respect et obéissance. Pas la peur du gendarme, non. Il nous aime, mais crainte, respect, obéissance. Bon, peut-être bien que la peur du gendarme, ça nous ferait du bien un peu de temps en temps aussi. Reconnaissance, confiance également. Et puis, on devrait déborder de reconnaissance, on devrait déborder de joie, on devrait déborder de zèle pour parler de Jésus autour de nous. Exactement comme cet ancien démoniaque. Jésus nous a délivrés du mal. Jésus a payé le prix de nos fautes pour que nous soyons en paix avec Dieu. Zèle pour annoncer sa parole. Il y a quelqu'un qui un jour a dit « Mon âme chante la grandeur du Seigneur. Mon âme chante la grandeur du Seigneur. Et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. » Vous savez qui a dit ça? Elle s'appelle Marie. C'était la maman de Jésus. « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. » Vraiment, on est invité à s'approprier ces paroles de Marie et à se réjouir, nous aussi, de tout ce que Dieu fait dans nos vies. Amen.